qu'on a évoqué certains aspects, mais pas ceux par rapport à ton engagement par rapport au fait que tu sois plus ou moins vigneron, il y a quand même c'est quand même attaché à quelque chose. C'est pas quelque chose qui est venu.
L'attachement aux vignes, par rapport aux vignes, moi, il se fait à travers des relations particulières, des gens. Je sais pas comment ça s'installe comme ça, le fait d'être attaché à un village, d'être attaché à une activité. C'est les gens qui le font. Alors, secondairement, on pourrait dire, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, si je suis encore où c'est, c'est grâce à la vigne et aussi son aspect rentable des choses. Hein. J'aurais sûrement continué à faire un peu de vigne de façon symbolique, hein, mais je ne serais pas, j'aurais pas cherché à en faire, même si j'en ai peu, d'en faire comme j'en ai fait jusqu'aujourd'hui. Alors, on s'attache à des personnages, hein, mon père qui allait aux vignes après le travail de l'usine, mon oncle à Belle-Nau-sur-l'Aigne, monsieur qui a énormément compté, même si je l'ai peu connu, c'était une grande gentillesse, une grande douceur, sûrement une sorte de philosophie de vie que j'ai pas pu trop appréhender sur le coup, mais qui. Et moi, je me souviens, j'avais bien 14 ans quand il est mort, et pendant plus d'un mois après sa mort, je me réveillais la nuit en disant, c'est pas possible que ce bonhomme-là, il soit mort. Tellement il avait marqué mon enfance. Puis après ça, c'est une ambiance. Hein, c'est important quand on s'installe un petit peu, quand on plante une vigne, c'est pas anodin, je dirais pas un plant de patate, mais on plante sur le long terme, on plante pour 25, 30 ans, c'est toute un investissement, on se projette dans l'avenir. Puis voilà quoi, puis après ça, c'est toute un état d'esprit, et puis moi je m'intéressant à l'histoire locale, on voit mieux d'où on vient, on a posé nos racines, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier non plus, ça remonte très très loin, et on s'installe là, il faut qu'on soit ancré quelque part, voilà mon environnement, voilà mon entourage, les vignes ça fait partie essentiellement de mon entourage, mais bon, il y a d'autres choses aussi, hein.
Souviens tes premiers souvenirs dans les vignes.
Alors, les premiers souvenirs, justement, dans les vignes, c'est les vendanges. Hein. Les vendanges, parce que le vent est lié à du froid, à de la pluie. Ça ne veut pas dire que. Ça, c'était de mon temps. Hein. De mon temps, de ce que je m'en souviens, les vendanges étaient tardives, étaient froides, pluvieuses. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas connu aussi des vendanges comme cette année 2011, au mois d'août. Historiquement, moi, je peux te ressortir des dates, il y a 2 siècles, 2 siècles et demi, où on a fait des vendanges au mois d'août. Donc, le réchauffement de la planète, certes, mais il y a eu aussi des âges glaciaires, des âges moins glaciaires, etc. C'est un éternel recommencement, c'est cyclique, et bref. Moi, en tout cas, de ce que j'ai connu dans mes jeunes années, là, c'était du froid, c'était pas facile, on n'était pas équipé, il n'y avait pas des impairs, les bottes, les trucs et les machins. Alors, on galérait, hein, on allait aux vignes avec le cheval et la voiture. Les chemins étaient pleins d'ornières. Le cheval avait du mal à tirer la carriole parce qu'elle s'enfonçait jusqu'au moyeu. On trimballait des caisses en bois, le traîneau, parce qu'il y avait une vigne au fond d'un finage où c'est la forêt qui était tellement pentue qu'on descendait les caisses pleines. Et qu'on chargeait en bas sur la carriole, et on remontait, le cheval remontait le traîneau à vide, avec quelques caisses vides, mais déjà rien que de les remonter, c'était tout un événement, un effort pour le pauvre cheval. Et on partait le matin, on emmenait on avait embarqué des gamelles de je ne sais plus trop quoi, puis à midi, eh ben, on brûlait des sarments, hein, c'était prévu pour les vendanges. On réchauffait le truc, on bouffait des harengs sorts, pouvait se mettre éventuellement à l'abri dans la cabane, il y avait toujours une cabane, on les a démolies depuis pour pouvoir tourner avec les tracteurs en jambeur, il y avait toujours la cabane avec derrière la citerne pour récupérer l'eau, parce qu'on venait sulfater, il fallait remplir la pompe à eau. Donc, il fallait penser à tout ça. Mais malgré tout, tout au long de la journée, il y avait bon, des jeunes et moins jeunes, tout le monde, il y avait matière à rigoler. On savait que c'était les vendanges. Il y avait aussi, même si c'était des fois frugal, il y avait aussi des repas très très sympas. On savait que les vignerons qui faisaient les vendanges, qui recevaient les vendangeurs, faisaient un maximum pour qu'ils soient au mieux. Alors, c'était le confort de l'époque. Bien sûr, le lendemain matin, quand tu repartais aux vignes, dans ta chambre, il n'y avait pas eu de feu. Tes habits mouillés, il l'était un peu moins, mais il l'était encore. Il fallait grimper dans tout ça. À un moment, tu avais un petit peu froid, puis tu repartais. Mais comme c'était ça, il n'y avait pas d'autre référence. Hein. Donc, c'était comme ça. Et encore une fois, il y avait des éclats de rire. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans nos hordons de vendangeurs, il y a autant d'éclats de rire. Je doute. Je doute parce que autour des vendanges actuelles, qui se font de façon un peu peut-être autoritaire, en tout cas avec des soucis de rentabilité, etc., le vendangeur voit bien que c'est plus l'ambiance d'antan. Hein. Pour ça, bah, il faut faire des vendanges familiales. Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir faire des vendanges familiales, c'est-à-dire autour de cette table-là à laquelle on met quelques rallonges, on tient 23-24 tables. Le temps, quand il est bon, on mange dehors sur la terrasse, le soir éventuellement, c'est-à-dire on a mangé là, c'est une ambiance familiale. On est dans notre maison, on n'est pas dans un chai, dans un réfectoire et dans des pioles, vraiment. Donc, il y a toujours cette ambiance. En plus, on a la chance de pouvoir vendanger avec des copains de mon âge, des vieux, en retraite, des copains de mes enfants, des jeunes. Tout ça, ça cohabite, ça permet d'échanger. Jusqu'à maintenant, moi, je m'en porte très heureux. Et tant que ça pourra durer comme ça, les vendanges se feront, pour moi, de façon très, très, très agréable. Si je dois faire appel, je le ferai malheureusement, à des gens du voyage ou à des équipes de gens que je ne connais pas, ça va perdre beaucoup de leur charme. Les vendanges vont perdre de leur charme. Alors bien sûr, le soir, si on est 15 dans les vignes, c'est comme un fait exprès, je ne sais pas pourquoi, le soir on est quand même 24 à table. Ça veut dire qu'on attire quand même quelques intéressés du coin. Et sans faire la fête de façon démesurée, on y mange bien, on y boit bien quand le travail est terminé, et ben on boit le champagne, hein, on ne va pas non plus attendre le chien. D'ailleurs que nous ne le faisons pas parce que on peut prétendre que chaque soir c'est la fête, hein, donc ça se passe très très bien. J'ai eu la chance l'année dernière d'avoir à ma table pendant 2 jours un hôte de Marc qui a préfacé un livre qui est sorti sur les Rissés, un livre de photos de Michel Joliot, et cet hôte d'exception, c'était Jean-Paul Kaufmann, ancien otage du Liban et aussi rédacteur et journaliste dans l'Amateur de Bordeaux. Il connaissait les Rissés, il a eu la gentillesse de revenir pour les vendanges, de se réimprégner de l'ambiance. Voilà, c'était très sympa. J'ai perdu le fil de la question. J'ai digressé. Oui, ben c'est surtout essentiellement les vendanges. Alors après, ça nous échappait un peu, il y avait l'école, mais je me souviens, avec mon frère, on accompagnait ma mère à la bicyclette. Alors, fallait monter, hein. Des fois, fallait descendre de vélo pour pousser le vélo, pour arriver aux vignes, c'était long, c'était dur, c'était... Et puis là-bas, on allait faire quoi ? On allait tirer la roclotte essentiellement, hein. Il n'y avait pas de désherbant, il n'y avait pas de tracteur à cheval, il y avait le cheval qui passait aussi pour passer la charrue. Petite charrue d'ailleurs, légère, maniable, fabriquée par Maurice Aurissé. C'était connu pour ses outils viticoles. Alors on tirait la roclotte, on donnait un coup de main. Quand on avait fini, quand on pensait avoir fini, il n'y avait plus qu'à recommencer parce qu'entre-temps, l'herbe était repoussée de l'autre côté. C'était pareil pour le sulfatage. J'entendais mon père après le boulot à 5h, 5h30. montait sur sa moto, rejoindre son beau-frère à Balneau, et puis se mettait en route avec la pompe à dos, la Vermorel. On sulfatait, 2 jours, 3 jours, 4 jours, puis le 4e jour, on va en rentamer une séquence, hein, parce que faut recommencer, quoi, ainsi de suite. Il y avait aussi des... Mon frère me rappelait que mon père lui avait fait brûler, au bout d'une poêle à long manche, des morceaux de soufre sous les plans pour les traiter contre l'oïdium. On arrosait aussi avec dans un seau du permanganate, avec un truc de balai. On arrosait les plans comme ça. On allait de plan en plan. Alors que maintenant, ils grimpent sur leurs enjambeurs. Même en petite vitesse, ils vont faire une quinzaine d'hectares dans la journée. Allez, j'en sais rien, peut-être même plus. Alors que avant, fallait vraiment s'en donner la peine.
Et les premières coupes que tu as bues, alors, c'était quand ? Tout jeune ?
C'était tout jeune, j'avais 7-8 ans, et on se rappelait ça tout à l'heure avec mon frère. C'était les Fontaine-Lava, d'ailleurs des vignes qui ne sont plus à mon oncle, qui ne sont plus à Benet, puisque quand je parle de mon oncle était le grand-père de Serge Benet. Il y a eu des échanges de faits, bref. Et moi, c'est ça dont je me souviens, et je vois très bien les photos. Je vois très bien comment je suis habillé avec le collier. Et j'ai eu la malchance, dans un raisin, un dernier raisin du dernier plan, au moment de le couper, il y avait une vipère qui était entourée dans le raisin. Et cette année, mon équipe a été. On a évoqué dans la presse locale le fait que mon équipe ait trouvé dans un plan une énorme vipère. Il y a eu la photo, on en a parlé, bref. Donc c'est pas rare, mais ça fait drôle quand on tombe dessus. Ça nous est arrivé aussi il y a quelque temps, il y a 5-6 ans, on a une vipère dans un poche, hop, elle est partie. Oui, voilà, des souvenirs de vendanges, les casse-croûtes, on n'en finissait pas. Non, c'était relativement sympa. Vu d'aujourd'hui, on galérait quand même, hein, mais à l'époque... C'était le bon temps.
Tu parles de fêtes, il y avait des balles, des fêtes, des choses comme ça.
Pendant les vendanges, non.
Et en dehors, à la Saint-Vincent, par exemple.
Ah bah si, alors il y avait... Alors on avait peu de fêtes dans l'année. Je ne me souviens pas qu'on fêtait à la Saint-Vincent. Parce que la Saint-Vincent, ça, c'est plutôt un peu comme une com. Hein. Non, par contre, alors là, c'était grandiose. On faisait les fêtes de pays. On honorait le saint patron du pays. Et on l'honorait. On ne faisait pas semblant. Parce que chez mon oncle Pierre, à Bello, quand je parle des vignes, j'ai référence à un oncle. Mais là, quand je parle de la bouffe, j'ai référence à un autre oncle. Et la fête de Bello, c'était quelque chose. C'était pantagruélique. Il se trouve que cet oncle-là était aussi vigneron, bien sûr, mais il était marchand de bestiaux. Donc, un commerçant hors pair, donc il était, entre guillemets, relativement riche. Et la fête de Belleneau, c'était quelque chose. Il y avait des entrées à n'en plus finir, des mets très fins, la tante cuisinait très bien, il y avait viande blanche, viande rouge, chacun sa truite. On sortait de table à 19h le soir. On descendait dans le village à l'un des deux bistrots. Belleneau n'est pas grand pourtant. L'un des deux bistrots, chez la mère Billotte, qui tenait une épicerie, qui tenait le tabac. On pouvait taper le carton, c'était un jeu aux cartes. Et il buvait l'apéro. Moi, j'étais trop jeune pour ça. Et on remontait tant bien que mal. On remontait tant bien que mal sur les coups de 22h. On se remettait à table. C'était pas que des restes qui nous attendaient. C'était encore un autre gueuleton. Et ça se durait jusqu'à 3 heures du matin. À ce moment-là, on rentrait de Belleneau à vélo. Et moi, j'étais monté sur le cadre du vélo de mon père. Et le lendemain, on retournait à la fête de Belleneau pour manger essentiellement, mais il n'y avait pas que ça, de la tête de veau à la vinaigrette. Ça, c'était régulier, c'était tous les lendemains de fête, tête de veau à la vinaigrette, ça avait, disait-on, le don de remettre la gueule de bois d'aplomb. Mais c'était pantagruélique. Alors, on faisait pas, on recevait pas chaque semaine autant. C'était vraiment très, très ponctuel. Il y avait aussi des moments très importants, c'était les moissons. Fin de moisson. Il y avait un bon repas. Et surtout, quand on recevait le battage. Le battage, c'était cette grosse machine qui passait de maison en maison. Et voilà, les gerbes passaient dans le battage, on égrenait. Et moi, j'étais souvent embauché pour couper la ficelle de la gerbe. Et l'autre, il engrenait le truc. Alors, on gobait de la poussière, toute noire. C'était atroce, on avait chaud, etc. Mais on mangeait très, très bien. On mangeait très, très bien. Il y avait aussi un autre moment où on mangeait bien. C'était le jour, alors, plus souvent, les veilles de Noël, quand on tuait le cochon. Ah ben oui. Parce que, entre autres choses, bon, il fallait du monde hein, pour s'occuper des tripas et des trucs et des machins, du cochon, du boudin. Et en particulier, on réunissait ben, tous les copains, la famille, pour manger ce qu'on appelait le contrôle. C'était je sais plus quoi, sûrement des viscères qui ne pouvaient pas résister autant, d'autant qu'on n'avait pas de frigo. Donc là, il fallait qu'on se réunisse pour bouffer le contrôle. Et c'était l'occasion, tuer le cochon, c'était toujours une occasion de faire une bonne bouffe. On avait au lycée le père Corta, qui était très renommé pour son appétit. Mais un appétit, hein. Et je me souviens, il avait été invité chez mes deux oncles en même temps pour le même repas. Et mes deux oncles habitaient d'un côté et de l'autre de la cour. Ça n'a pas empêché le père Cortin de répondre aux deux invitations. Il faisait un plat chez l'un, traversait un plat chez l'autre, retournait un plat chez l'autre, et il y allait copieusement. Le coup de fourchette était comme s'il avait faim. Et il tenait bien debout. Il avait fait le pari un jour qu'il a gagné de bouffer, on ne peut pas dire autrement, 1 mètre de boudin. Eh bien, il l'a fait. C'était des gens qui habitaient au lycée qui n'avaient pas d'enfants, sûrement une petite retraite. Il avait tenu un petit garage où il réparait essentiellement les vélos. Il distribuait de l'essence, sa femme faisait du repassage. Bon. Il avait de très belles collections de timbres. Il les a vendus comme ça, petit bout par petit bout, pour bouffer. Et moi, je voyais sur son calendrier, ça pouvait être la semaine, c'était en semaine, c'était rôti de machin, épaule d'agneau. C'était tous les jours le festin, tant qu'il a pu. Il s'en est donné les moyens avec la vente de ses timbres. À quel moment pouvait-on encore bien manger ? Ben, tout ce qui était fin de vendange. Les fins de vendange, nous on appelle ça le chien, d'autres appellent ça le cochelet. En Bourgogne, on appelle ça la paulée de Meursault. Bref, c'est toujours l'occasion de faire une bonne bouffe. Alors pourquoi le chien ? Le chien, c'était plutôt une histoire de la coupe des foins. On avait toujours peur que dans le dernier petit morceau de foin à couper, ne se soit réfugié le chien qui avait peur de la machine. On avait peur d'y couper les pattes. Bon, ça, puis d'autres pas de mythes, mais d'autres croyances. Et nous, c'était plutôt le chien, le cochelet. Alors là, on faisait un excellent repas. Oui. Pour marquer toutes les grandes périodes importantes, donc la récolte du raisin, les foins, le battage, voilà.
Tu parles de mythes ou de choses qu'on a racontées. On t'a raconté des choses sur la révolte de 1911 ?
À l'époque, non.
Et après ?
Moi, j'ai découvert plus tard qu'il s'était passé ce phénomène-là. J'ai malheureusement découvert ça dans les années 60. Parce qu'en 1911, et je vais malheureusement hausser un peu le ton parce que c'est des genres de choses qui m'énervent un peu, mais l'histoire est ainsi faite. En 1911, ils se sont battus pour qu'on ait l'appellation. En 1908, ils n'avaient pas voulu de nous. En 1911, on est revenu à la charge. Je fais pas la révolte des vignerons. Ça a traîné pour qu'en 1927, enfin, on nous donne l'appellation dans l'Aube de 16 500 hectares. De 16 500 hectares. Alors, pourquoi tu ne me poses pas la question, pourquoi aujourd'hui, on a à peine 7 000 hectares de vignes? Eh bien, parce qu'il y a une bande de couillons, pour ne pas dire pire, qui dans les années 60, je rappelle que dans les années 60, il y avait très peu de vignerons, au Rissay en tout cas et partout ailleurs. Peut-être qu'ils ont manqué de se congratuler, d'échanger, pour réfléchir. Ils se sont mis dans la tronche que allaient revenir les pieds noirs d'Algérie. Eux, là-bas, ils cultivaient la vigne de façon intensive. Ils ont eu la trouille que, puisqu'on allait les foutre dehors de l'Algérie, ils reviennent avec l'idée de refaire de la vigne quelque part, puisqu'ils savaient faire que ça. D'autre part, ils allaient être indemnisés avec plein de pognon. Donc, ils allaient venir chez nous à acheter toutes nos terres, hein, planter à outrance, et le marché de champagne qui était déjà pas brillant, ils allaient se casser la gueule, mais bien. Donc, ils se sont dit, comment on pourrait faire pour éviter ce scandale? On est déjà miséreux. S'ils nous font un coup comme ça, on est encore un peu plus foutus. C'était de la parano pure. On ne s'est pas dit, ah ben attendez, on jugulera les droits de plantation, on jugulera machin, un truc. Il y avait des tas de possibilités. Et l'INAO, qui avait été l'Institut National des Appellations d'Origine, qui avait été constitué en 1935, c'était pour donner de l'appellation. Aucun des statuts ne stipule qu'à un moment donné, on peut retirer de l'appellation, sur des cas très très limités. Hein. Eh bien, du jour au lendemain, on s'est quand même retiré 9 500 hectares d'appellation champagne. Dans l'Aube, 9 500 hectares d'appellation champagne. Quelle connerie! Mais quelle connerie! À l'époque, on avait dit, ils avaient dit aux Marnais, voilà, nous on a un peu la truc, qui se passe ceci, cela, donc on va se retirer de l'appellation. Qu'est-ce que vous ferez? Les Marnais, ben, je ne sais pas, on n'a pas trop réfléchi. Si vous dites que vous le ferez, peut-être que nous le ferons. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors aujourd'hui, on leur en veut de quoi? De ne pas avoir été aussi cons que nous? On n'a pas à leur en vouloir. Ils ont gardé leur potentialité. En 1800, ils avaient 23 000 hectares de vignes, nous en avions autant. D'accord? On en a acquis 19 500 officiellement en 27. Eux, ils étaient toujours autour de leurs 23 000. Aujourd'hui, ils ont augmenté, mais nous n'en avons plus que 7 000 à cause de quelques connards qui ont décidé de se tirer une balle dans le pied. Et comment ça s'est fait? Une commission se promenait. Eh bien là, on va la retirer. Si toutefois le propriétaire était là ou pas loin, non, vous ne touchez à rien. Vous ne touchez à rien. À Essois, si les Rissay est la première commune de Champagne avec 866 hectares, et soit la quatrième avec 430 hectares. Vignoble important. Bon, entre nous, c'est un petit peu dommage que ce soit essentiellement 80 hectares de Tétinger qui y soit. Mais bon, c'est comme ça. Pourquoi ils ont gardé leur potentialité? C'est parce que le maire de l'époque de 16, je me trompe de nom, et le député de l'époque, non, vous ne toucherez pas à notre vignoble. Ne touchez à rien. Ils ont donc tout, eux, conservé. Et nous, comme des couillons, on s'en enlevait, pour l'Aube en général, 9 500. Ça, c'est une histoire dont on n'entend jamais parler. Vous vous rendez compte d'une connerie monstrueuse.
Mais ça, t'as appris ça comment et quand?
Ça s'est passé dans les années 60-62. Et puis, je me suis rendu compte plus tard, parce que c'est encore une histoire dont on ne parlait que très peu.
Parce que ça, j'étais pas là-dedans en 62.
Non, j'étais pas là-dedans, non.
Dans autre chose.
Ah non, j'ai passé le bac en 64, alors bon, j'étais trop jeune pour m'intéresser à tout ça. C'est quand nous, on s'est mis à avec mon frère, nos parents nous ont donné l'année. Il dit, attends, dans telle contrée. Ah oui, je recherche son nom. C'est pas le... Ouais, non, mais on est devant une côte uniforme et il y a une césure en plein milieu, de haut en bas. La côte est coupée. À droite, il y a l'appellation. À gauche, il n'y a plus d'appellation. Or, il y a la première qui soit atteinte, c'est une terre de mon père. Dans la commission, il y avait quelqu'un qui avait demandé à mon père de racheter d'autres terres. Et mon père, lui en ayant déjà vendu, il dit non, stop, j'en ai déjà vendu, c'est bien, on en reste là. Et bien, en passant, le coup de patte de vache, de salopard, a fait qu'on lui a retiré l'appellation. Sympa. Voilà. Et bien oui, ça s'est fait comme ça. Et ça, et pour d'autres. Par contre, on a pas osé enlever de l'appellation à des anvers qui sont pas très bons pour le vin. Et on a retiré à des côtes comme ça, on a retiré l'appellation. Ça, c'était un moment quand même assez triste. Hein. D'autant que les gens de 1911 s'étaient battus pour qu'on ait de l'appellation. Les autres qui le laissent partir. Non, c'était... Alors, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on a un petit peu honte. Hein. C'est pas moi, mais c'est les nôtres, ce sont les nôtres.
Hein. Et là, aux commémorations, on n'en parle pas du tout, alors que...
Moi, j'en parle. Hein. Moi, j'ai fait une petite douzaine de conférences sur la révolte des vignerons. Systématiquement, j'en parle. Et je vois les yeux écarquillés de certains. Ben oui, c'est notre histoire. Hein. Même si, quelquefois, elle prend des allures de débilité mentale... c'est notre histoire, hein. On ne peut pas la changer.
T'es parti au service, hein. T'as fait ton service?
Oui, j'ai fait mon service.
Tu l'as fait en quelle
année? 68. 68-69, puisque en 68, j'étais à Beauvais. Ma femme était en études à Paris. On se téléphonait. Moi, je faisais le mur, je retourne à Paris. Et j'allais me foutre au plus épais. Je n'avais pas du tout la... Je n'avais pas du tout l'idée que je pouvais en entendre à la radio, parce que dans ma caserne militaire de Beauvais, il y avait la gendarmerie, qui se déplace rapidement, bref, qui était là. On couchait avec les Rangers, prêts à intervenir, c'était la guerre civile annoncée. Moi, je foutais le camp, j'avais une bagnole, j'arrivais à Paris, on allait traîner à la Sorbonne, à la fac de médecine. On était effectivement en train de refaire le monde comme des utopistes de l'époque, mais bon, ça n'avait rien de... C'était la sérénité, c'était... Par contre, la nuit, alors moi, j'y étais pas, hein, mais la nuit, effectivement, ça changeait de tableau. C'était la violence, c'était... Alors, qui était qui? J'en sais rien, moi. Qui était de quel côté? Non, c'est rien. Mais dans la journée, les choses n'étaient pas du tout celles qu'on pouvait dire. Ma mère était très inquiète pour nous, de nous savoir à Paris, en plein milieu. Non, bon. Et si, j'ai fait mon service militaire à ce moment-là. Et je suis revenu, quand je suis revenu, j'ai été instite pendant quelques mois pour finir l'année, donc de novembre, c'est novembre 68, j'ai fait militaire 67-68. De novembre 68 à juin 69, et après, je suis marié, et après je suis allé à l'école de Bar-sur-Seine dans de 3 ans dans une classe de perfectionnement.
D'accord. Donc, tu as vécu les événements des deux côtés?
Et des deux côtés, oui. Cette année-là, en 68, avant les événements, je m'étais inscrit pour passer mon bac Mathelem. J'avais mon bac sciences expérimentales, je voulais passer mon bac Mathelem. J'en avais rien à faire. Mais, étant militaire, passer le bac, c'était déjà 2 jours, 3 jours de permission, et on arrondissait ça la semaine. Donc, je savais, et c'était pour ça que je m'étais présenté. Donc, je pose ma permission, et j'arrive au bac Mathelem à 3, au lycée, qui est devenu maintenant un truc de spectacle, etc. Et alors... c'était comme les choses avaient été un petit peu différentes. Le bac n'avait été essentiellement que oral. Tout était à l'oral. Et la prof de maths m'appelle, elle dit, venez, venez, parce que moi, ayant le bac, je n'avais plus que les choses essentielles de ma TLM à passer, mathématiques, physique, chimie, j'avais que ça à passer. Donc la prof, elle me fait signer, venez, venez. Alors j'étais en militaire, j'étais obligé de... Je lui explique, mais non, venez, venez. Comme un couillon, j'ai pensé après qu'il suffisait simplement que je m'assoie devant elle et qu'on discute 2 minutes pour qu'elle me donne. Mais aucun intérêt, je n'étais pas là pour récupérer un diplôme, mais c'était une ambiance un peu particulière, ce bac. J'imagine que malheureusement, plus tard, quand on s'est pointé, les jeunes qui ont eu le bac, l'unique bac de 68, ça a dû quand même être une référence un peu négative dans leur curriculum vitae, mais bon.
Dans les histoires racontées, François de Meining me disait que qu'on t'avait raconté quelque chose à propos d'un drapeau.
Ah, c'était la révolte des Mirons. Ouais, bon. Alors, ce que je disais, ce que j'ai dit, et au lycée, les lycées ont très peu participé. Ils ont participé, mais très peu par rapport à certains villages où ils se sont vraiment engagés. Quand tu parles de Fontaine, près de Bar-sur-Aube, il s'est passé des choses, Essois, Polizzo, Bar-sur-Seine, Troyes, il s'est passé des choses, on connaît très très bien les lycées, pas grand chose. On sait qu'il y a une réunion, Gaston Chèque est venu, a fait un très beau discours, la réunion n'a même pas pu être contenue à la mairie parce qu'il n'y avait pas assez de place, donc, enfin bon, c'était mais ce jour, il n'y a eu que ce jour-là, le reste. Alors, il y a eu cet événement du drapeau rouge. À cette époque-là, pendant la révolte des Mirons, le drapeau rouge, on le voyait tous les jours, accroché aux maisons individuelles ou sur des maisons publiques, sur des monuments, etc. Le drapeau rouge, à l'époque, ça n'avait pas de signe politique. C'était simplement le rouge de la colère. Sous-entendu, le rouge de la misère, donc de la colère. Donc, il en fleurissait partout, tous les matins. Le jeu, c'était qu'on les installe et que les gendarmes les fassent descendre. Le lendemain, on les retrouvait, les gendarmes les descendaient. Quand un beau jour, un beau matin, au mois de juin, en haut du clocher de Ricebo, qui fait 63 mètres de haut, on a vu flotter un drapeau rouge. Ah ! Là, il fallait aller le descendre. C'était quand même un petit peu osé. D'autant qu'on disait, les escaliers qui accèdent au clocher ont été sciés, on risque de tomber. Quand on sort du clocher, à l'extérieur du clocher, les bouts de ferraille qui aident à monter ont été aussi sabotés, donc risque, danger de tomber. Personne ne voulait y aller. Alors, pour inciter quand même celui qui l'avait fait, on proposait des primes, machin, truc... Un louis d'or, 3 louis d'or, des jours de perm. Jusqu'au jour, là, c'était vraiment très intéressant. Alors nous, derrière, les vignerons, ils proposaient la même chose aux gars pour dire, tu n'y vas pas, nous, on te propose la même chose. Jusqu'à un moment donné, non, on ne peut pas, des louis d'or, des trucs, des machins. Donc, le même, il sera allé l'installer et remonter, le descendre. Voilà. Alors, ce drapeau rouge, pendant très longtemps, il y avait une vigneronne de Ricebo, Monique Pellissoudé, je l'ai dans mon grenier, je l'ai encore vu cet hiver. Faut nous le sortir, on commémore la révolte des Mirons, il nous le faut, vous inquiétez pas. Je me fais interviewer par Canal 32, le gars il me dit, vous aurez le drapeau rouge quand on viendra, vous inquiétez pas. Je vais le chercher la veille, où Canal 32 vient m'interviewer, on s'aperçoit que c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça, c'était un truc qui avait été rafistolé pour faire une animation après la guerre, j'en sais rien. Peut-être en 39-45, rien. Alors l'interview s'est fait sans le fameux drapeau rouge. On ouvre l'exposition des Ricé sur la révolte des Villons le 8 avril. Et là se présente quelqu'un des Ricé-Bas qui entend parler de ce... Il y avait donc... On en parlait, mais il n'y avait aucun signe. Elle me dit, ben, le drapeau rouge, c'est moi qui l'ai. J'étais cet hiver à une unité libre, le temps libre pour les personnes en retraite, etc. À la fac, quelqu'un, un historien, a évoqué cet épisode-là. Et bien, Je me souviens, mon père, à Noël, ou quand il y avait une fête à la maison, il faisait le clown, il allait chercher le drapeau rouge, là, puis il racontait. Donc le drapeau rouge, elle me l'a ramené. On a le drapeau rouge. Il est dans mon... faut que je lui rende, mais je ne le vois pas. Il est dans mon atelier. Voilà l'histoire du drapeau rouge. Ceci dit, entre nous, il fallait bien qu'au lycée, on se fasse un petit peu mousser avec un événement. On a pris le drapeau rouge, quoi, parce que... mais c'est tout à fait anecdotique.
Et qui t'a raconté ça?
Ben ça, on le savait, hein, depuis très longtemps, on colportait cette idée du drapeau rouge. Simplement, on cherchait le drapeau rouge. On croyait qu'il était là, en fait, il n'était pas là.
Oui, mais ça, tu t'as bien, cette histoire-là, on te l'a bien racontée.
On me l'a raconté, puis Mme Weinling est revenue avec, des archives avec tout un dossier de gens qui avaient témoigné. On disait comment ça s'était passé. Et ça embêtait beaucoup la police parce que ben, ils pouvaient pas l'enlever. Tous les autres, ils pouvaient, mais là, ils pouvaient pas l'enlever. Enfin bon.
Donc ça, c'était la petite gloriole de...
Ouais, il fallait... On s'est un petit peu singularisé avec ça. Quoi.
Mais ça, qui c'est... Parce que tu me dis que... Quand tu étais enfant, on en parlait en 1911, etc. On en parlait pas. Mais qui a raconté? Alors, comment est-ce que ça a été colporté, ce genre de...
Ben, si, quand même, parce qu'en 51, en 61, moi je me souviens, il y a eu quand même la presse locale, Libération, etc. Ils ont fait quand même fêter le cinquantenaire. Donc, en 51, je n'étais pas intéressé, mais ma mère a toujours gardé tous ces articles-là, découpé des tas de choses. Moi, j'ai pratiquement toute la presse. Hein. Et quand j'ai été en âge de comprendre un peu mieux, c'est-à-dire que, entre autres, je me souviens qu'en 70, ouais, j'ai eu un problème au pied qui m'a immobilisé plus d'un mois et demi l'hiver. Donc j'étais chez moi. Que faire? C'est là que j'ai commencé mes collections de timbres. C'est là que ma mère m'a ramené tous ces trucs-là. Et j'ai commencé en 70 à mettre mon nez là-dedans. Ah, tiens, oui, bah, c'est bon. Donc je m'étais dit, si... En 2011, il y aura sûrement à retravailler cette révolte des millions, le centenaire. Et moi, je m'y prêtais depuis très longtemps. Je savais que j'y serais et que un an avant, j'avais écrit la pièce de théâtre concernant la révolte des millions de 1911. Voilà comment les. Mais c'est pas enseigné dans les maisons, je pense. Hein. Dans nos maisons familiales et rurales, où on enseigne la viticulture, à Saint-Pange ou autre.
On devrait enseigner la politique. On devrait enseigner la politique.
Oh, la politique, non, mais l'histoire. L'histoire de le cheminement de toutes ces péripéties. Par exemple, raconter l'histoire du rosé d'Hérissé. Ben, c'est raconter comment on en est venu à faire du rosé. Non, ça remonte loin. Hein. Ça remonte très, très, très loin, cette histoire de rosé d'Hérissé. Là, encore une fois, on a su se focaliser pour avoir une singularité d'une part et avoir un débouché autre que le champagne, parce que c'était pas évident hein, d'être rosé. Puis de, même le problème subsiste encore aujourd'hui. La plupart des vignerons sont capables de faire un excellent champagne, mais parce qu'ils l'ont appris, parce que c'est leur truc, ils sont dedans depuis toujours, ils ont fait des études. Par contre, le vendre, c'est un autre pan, c'est un autre métier. Il faut avoir fait du commun, hein. C'est un autre métier, c'est pas toujours évident. Et ça, ça retient des fois un peu les vignons de se lancer dans la commercialisation.
Parce que dans les années 70, qui venait acheter les bouteilles?
Ça, je ne saurais pas trop de répondre, par contre...
Comment tu les vendais à qui, tes bouteilles?
Alors non, dans l'Aube essentiellement, justement, dans l'Aube, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pratiquement très peu de maisons de négoce, que toutes les grandes maisons de négoce sont dans la Marne. Les peu de maisons de négoce qu'on avait, c'était Bonnet, qui pour nous, c'est super important. Ouais, ça représente 500 000 bouteilles sur les 320 millions. Donc, c'est pas grand-chose. Et Bonnet vient de se faire absorber il y a une dizaine d'années par un groupe, le groupe Lançon BPC. BBC, et un autre négociant important, Drapier, Herville. C'est important. Par rapport aux 320 millions de bouteilles, c'est pas grand-chose. Dans l'Aube, on n'a jamais eu de comme ça des machines de guerre, des locomotives qui nous tirent. Là. Alors on vendait notre récolte au kilo. Et hop, ça remontait dans la Marne. Quelque chose aussi dont on parle très très peu. Parce qu'au moins, à la limite, on s'en moque. Mais au début, ça faisait quand même drôle. En 1911, quand il s'est agi de donner l'appellation, on avait déjà imaginé une appellation en quatre niveaux. C'est-à-dire, plus on était loin des Pernets de Reims, moins on payait le raisin cher. Et à cette époque-là, ça s'appelait des chambrées, il y en avait quatre, et c'était, je vais être schématique, mais c'était ça. Au Rissé, on leur a payé 25% du prix, un peu plus près 50, on se rapproche 75, et Pernet 1, 100%. Donc nous payer 25% des 100% des vins, ça ne devait sûrement pas représenter grand-chose. En 1927, quand on a eu l'appellation, on a tout de suite institué aussi, non plus quatre chambrées, mais une échelle des crus. Donc on a, c'était en pourcentage, hein. C'est-à-dire on a déplacé un peu l'échelle des crus. C'est-à-dire que nous, les Rissés, on doit être à 82%. C'est-à-dire que quand on t'annonce un prix au kilo de raisin dans la presse, l'éveil de vendange, sache que c'est un prix de kilo de raisin à 100%. Et que nous, au Rissé, il faut qu'on fasse le calcul à 0,82, qui n'est pas la même chose. Mais on n'a jamais trop crié. Tout ça parce qu'on disait, oui, mais vous êtes loin, faut faire remonter le jus, ça coûte de l'argent. Et puis c'était aussi pour un peu de dénigrement dans une arrière-pensée comme ça. Bon, je suis un peu schématique, on va peut-être m'en vouloir, mais il y a peut-être un peu de ça à l'époque. Peu importe, on ne joue plus là-dessus, mais on ne le dit pas. On doit le dire quand même qu'il y a une hiérarchie. Cette hiérarchie a un peu compensé, elle fait illusion en fait, par des primes à l'engagement. Vous engagez à vendre à un négociant 5 ans, 6 ans, 9 ans, ah, ça augmente. Votre prime de qualité, votre prime de je ne sais pas quoi, bref. Si bien que de 82, on arrive à 100%, on est content. Sauf que tout le monde a fait la même chose. Et le 100%, ben, se retrouve à 108%. Mais bon, on ne va pas chipoter. Hein. Le vigneron champenois est un vigneron heureux, même à 8% de différence.
Et enfin, quelle que soit la quantité de terre qu'on a, de parcelles, il y a un moment où on pense à l'avenir, non ? À la transmission ?
Ah oui, oui. Ah ben la transmission en Champagne, c'est quand même un sacré truc. Hein. C'est quand même un sacré truc. Hein. Il n'y a qu'à voir le prix. Alors le prix moyen, j'étais là-dessus il y a quelques jours, c'est pas vieux. Le prix moyen d'un hectare de vigne en France. Alors ça ne veut rien dire, puisque c'est un prix moyen. C'est 93 300 €. 93 300 €. Le prix moyen de terre, ça c'est la vigne dont je parle, hein, de terre à vigne. Non, de vigne, je dis une bêtise. De vigne dans l'Aube. 800 000 € l'hectare. J'ai dit tout à l'heure 93 300. 800 000 hectares. Dans la Marne, c'est 1 000 000 l'hectare, d'euros l'hectare. Et il y a des transactions qui viennent de se faire. Alors on va me dire, c'est sur des petites parcelles. Oui, pas si petites que ça. On est dans du 1 350 000 € l'État. D'accord ? Pour une succession, comment on fait ? Comment on fait ? Le problème, il est posé déjà depuis un certain temps. C'est que dans certaines familles, eh ben, on ne peut pas. On ne peut pas. Il y a tant de montages que je ne connais pas, moi, hein, mais on ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On vend. Et qui c'est qui rachète ? Alors on se pose quand même quelques questions. Enfin, il faut se poser des questions. Le nombre de vignerons sur le plan de la France, dans les 10 dernières années, il a dû se diviser par presque 2. Parce qu'il y a des exploitations qui ne peuvent plus se transmettre. Donc elles sont rachetées par des plus grosses, qui deviennent encore un peu plus grosses. Et ça, il y a un biais qui est en train de se faire, là, qui est dommageable au vignoble. Alors là, alors il y a aussi certaines appellations en Bourgogne qui valent très 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 cher. La Romanée-Conti, enfin bon, il y en a 2 hectares, ça vaut la peau des fesses. Hein. Mais nous, c'est sur 33 000 hectares, c'est entre 800 000 et 1 million, ça, c'est sûr. C'est conséquent. Alors, il y a des successions qui sont dures à avaler parce qu'il faut absorber les droits de succession. Ça, faut le prévoir longtemps à l'avance. Moi, j'ai fait. Ça y est, j'ai donné. Je suis un bon citoyen. J'ai donné beaucoup de sous. De toute façon, j'ai transmis, mais bon, c'est pas pour autant qu'on a vendu les vignes. Hein. C'est un outil de travail. Hein. Entre-temps, entre moi et mes enfants, l'État, s'est servi.
Donc il n'y a pas d'amortissement direct.
Hein. Ben, là, je sais pas, faut. Là encore, non, je n'ai fait que transmettre. Mais quand j'entends en ce moment des gens qui en ont acheté 3 hectares pour leur fils, 5 hectares pour leur fils à ce prix-là, je n'ai pas eu le temps de prendre ma calculette. Puis ça me ferait peur peut-être de voir à quel moment on va pouvoir rentrer dans nos billes. Moi, je comprends pas. Alors, faut avoir vraiment de l'argent à placer. Peut-être que c'est plus intéressant dans de la vigne que dans de l'or, quoique on a vu dernièrement l'or revenir à des valeurs qu'on n'aurait pas imaginées suite à la crise. Non, ça pose un vrai problème. Mais bon.
Et ça, derrière, puisqu'en fait, les prix, il y a des prix, puis il y a des vignerons, il y a un métier, il y a une corporation. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, de cette augmentation-là ou pas?
Ça, oui. Du jour où la vigne a commencé à être intéressante, à être rentable, du jour au lendemain, on s'est aperçu que les prix flambaient.
Donc
Donc,
70 ou 80?
à 70. Ah oui, tout de suite, dès qu'on a vu que ça prenait, tout de suite, les prix ont changé. Il y a un deuxième problème qui se greffe là-dessus, qui est dramatique, enfin, qui risque d'être dramatique. C'est que il y a une commission qui a été constituée pour redonner à certaines terres de l'appellation. On est un peu en cours. Hein. Le gâteau est distribué, il est planté. On est sur 33-34 000 hectares de vignes. C'est un peu juste. Il serait bon quand même d'en avoir un petit peu plus. Donc ça, on sait où il y en a, puisque nous, comme des cons, on s'en est retiré 9 000 ans. D'accord. Donc déjà, là, on peut en trouver. Mais ça va poser un autre problème. Quand tu regardes, par exemple, Montgueux, cet îlot d'appellation Champagne, quand tu regardes cette immense colline qui s'en va sur la gauche vers Aix-en-Othe, Estissac-Aix-en-Othe, ça pourrait très bien être de l'appellation. Pas moi qui vais le décider, parce qu'il y a des tas de gens qui vont décider, des historiens, des empélologues, bref, non seulement là, mais dans d'autres villages, peut-être ici. Actuellement, les terres, bon, je ne suis pas d'accord avec ce prix, mais on dit qu'une terre, agricole, lambda, la moyenne c'est 5 000 euros l'hectare. Bon, je suis sûr qu'ici, il y a des terres qui ne valent pas 5 000 euros l'hectare. Ça vaut, allez, 3 000, et c'est le grand maximum. Des terres de 5 000 hectares qui, du jour au lendemain, vont se retrouver en appellation Champagne. Elles vont passer de 5 000 hectares, 5 000 euros l'hectare, aller à 400 000 euros l'hectare. Il y en a déjà qui ont commencé à prévoir le truc. Ils ont déjà spéculé. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelques années, ils ont commencé à se réserver des terres. Et au lieu de les payer 5 000 hectares comme ça devrait le faire, ils ont déjà commencé à mettre la barre assez haute. On va leur quand même leur en donner, allez, 45 000, 50 000 euros l'hectare. Comme au poker pour voir. Je mise fort, j'ai l'impression que je peux gagner. Mais s'il ne gagne pas, il sera eu, hein, comme on dit, pour ne pas dire plus de vulgarité. Mais par contre, s'il avait raison, il va passer de 50 000 euros l'hectare à 400 000. Alors là, ça va. Alors, aussi, le problème, c'est que pourquoi on a donné là cette terre-là quand on va dévoiler cette zone, cette nouvelle zone d'appellation. Chaque année, on recule la date, hein, parce que ce jour-là, ça va être attention, hein, on peut des fois viser à vue, hein. Parce que pourquoi donner une appellation à cette terre-là et pourquoi pas à l'autre? Sur quels critères? Puis il va bien falloir limiter le nombre d'hectares, on ne va pas non plus en amener pléthoriquement sur le marché. Sinon, alors là, le foncier, il s'écroule. Enfin, ça va perturber tous les équilibres, tous les repères qu'on pouvait avoir. Moi, j'y connais rien. On dit que la commission est souveraine. À mon avis, elle n'est sûrement pas tant que ça, puisqu'il a bien fallu qu'un jour, on lui dise « Vous travaillez sur tant d'hectares. » Pas 30 000, pas 1000, sur combien, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ils vont se dépatouiller. Je ne sais pas comment on va pouvoir l'annoncer au public. Parce que ça va faire des jaloux. Hein. Ça va faire des jaloux. Dans une transmission de biens, si on n'a pas prévu ce coup-là, on peut des fois en famille être fâché. Hein. On se répartit les terres. Dans 10 ans, 15 ans, ah, il y en a un des deux, disons, sur les deux frangins qui ont... Je parle en connaissance de cause, c'est notre cas avec mon frère. On a gardé en indivision toutes ces terres-là. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que l'appellation peut se poser. Or, on sait qu'il y en aura, parce que c'est évident. Sinon, bon. Alors, on a gardé, on est bien. Si on se les est partagés, il va se trouver qu'il y en a, il va en avoir, allez, je ne vais pas mettre le truc très haut, il va en avoir 30 arts, et l'autre, il va en avoir 5 arts. Il y a une disproportion. Donc là, il va y avoir aussi des problèmes dans les familles. Ouais. Ceci dit, on a la chance quand même par rapport aux autres vignobles de n'avoir en gros, allez, je mets de côté, mais ça me permet, c'est l'occasion d'en parler, je mets de côté les trois appellations d'hérissées, rosé, coteau champenois, champagne. Avec le champagne, il y a toujours associé la deuxième appellation, coteau champenois. Ce sont des vins tranquilles, rouges, blancs ou rosés, et aussi en particulier, mais pas sur l'ensemble, simplement sur 360 hectares, on a l'appellation rosé d'hérissée. Hormis ça, en gros, la Champagne, c'est une appellation. Tu prends la Bourgogne ou les autres vignobles, ou le Bordelais, c'est de nombreuses appellations. C'est beaucoup plus difficile à gérer. Nous, ça va être relativement facile à gérer, même si on fait un petit distinguo entre une AOC de l'Aube avec une AOC de la Champagne.